en philosophie de la nature, on ne peut atteindre la finalité que par la cause formelle. Ça, c'est très net dans la philosophie de la nature chez Aristote. On découvre inductivement la forme, et ayant découvert la forme parallèlement à la matière, on découvre que la forme détermine l'être et le finalise. En philosophie de la nature, la fin est découverte par la cause formelle. Bon, ça, il faut essayer de découvrir. C'est capital. Parce que la plupart des théologiens demeurent dans cette position-là pour la cause finale. Donc la cause finale s'est découverte, se découvre en référence avec la cause formelle. Donc elle est relative à la cause formelle. Et donc la finalité n'est pas découverte pour elle-même. C'est pas commode à bien comprendre, mais d'autre part, c'est relativement facile. Nous avons une nature humaine. Donc, nous connaissons la nature par nous-mêmes. Je peux très bien, si je suis un petit peu conscient de mes actes, ce qui arrive, j'espère, au bout d'un certain temps, que certains des actes sont dans le prolongement de ma nature et d'autres actes relèvent de ma personne. Vous voyez ? Mais c'est par rapport à l'homme que je découvre ça. Par rapport à moi-même, je peux découvrir ma finalité biologique. C'est la procréation. Et ça, chacun d'entre nous, nous avons cette nature humaine. La finalité biologique, c'est la procréation. Et la procréation, c'est quoi ? C'est que l'espèce humaine continue. On ne sort pas de l'espèce humaine. La procréation, chez chacun des animaux, c'est de perpétuité, c'est de continuer l'espèce, que l'espèce continue. Donc c'est une finalité immanente. Elle est donnée dans la forme. La nature implique la forme, ce qui la détermine. Et sa finalité, elle est immanente à sa forme. Oui. Donc, ce n'est pas la découverte à ce moment-là de la finalité comme principe. C'est la découverte de la finalité comme conclusion. C'est-à-dire en dépendance de la forme. Et ça, c'est très, très important. La plupart des thomistes demeurent dans cette vision-là de la finalité. C'est-à-dire qu'ils ne la découvrent pas pour elles-mêmes, comme principe. Ils la découvrent comme une conclusion. On ne découvre pas un principe comme conclusion. C'est très important au point de vue philosophique, ça. Alors, on dit, mais oui, la finalité, je sais ce que c'est. Mais ils connaissent la finalité par rapport à la forme. La finalité est relative à la forme. Toute forme est finalisée, porte en elle la détermination de sa fin. Le chat produit des petits chats. Et l'homme produit des petits hommes. Finalité immanente. Et la plupart du temps, en politique, c'est la finalité qu'on garde. C'est-à-dire, on ne connaît pas la vraie finalité de la personne. Bon, ça, il faut arriver à comprendre cela. Et si vous ne le comprenez pas, essayez de voir pourquoi vous ne le comprenez pas. Parce que on suit un cours avec intelligence, pas pour le répéter. Ça, pour le répéter, uniquement, on suit le cours pour passer des examens. On ne suit pas le cours pour passer des examens. On suit un cours philosophique pour former notre intelligence. C'est-à-dire la découverte des principes. C'est la découverte des principes qui forment notre intelligence. Tant qu'on n'a pas découvert un principe, notre intelligence n'est pas formée. C'est pour ça que la loi, la découverte d'une loi, ne forme pas mon intelligence. Parce que la loi, c'est une relation. Et mon intelligence n'est pas formée au niveau relatif. L'intelligence ne se forme que quand elle saisit des principes, des causes. C'est très très important ça. Alors, les deux causes premières, forme et matière, bon très bien. La nature me fait comprendre ça. Puis, troisième principe, la finalité. Toute forme a une finalité immanente. Toute forme, une finalité immanente. Mais ce n'est pas la découverte de la finalité comme principe. C'est la découverte de la finalité comme conclusion. Alors ça, c'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est plus la découverte de la finalité comme principe. Donc la philosophie de la nature ne me donne pas la découverte de la fin. Seule l'éthique... Seul le point de vue moral, le point de vue éthique, me met en présence d'une nouvelle finalité, celle de la cause finale. Vous voyez, c'est pour ça que Aristote commence l'éthique par le bonheur. On se pose la question, mais pourquoi commence-t-il par le bonheur ? Oui, parce que c'est le bonheur qui est personnel et qui fait toucher la fin personnelle. Ma nature désire le bonheur, c'est sûr, mais elle désire un bonheur qui est conforme à la nature. Et la finalité conforme à la nature demeure une finalité immanente. Alors, c'est très important de comprendre ce tournant au point de vue philosophique. L'éthique me met en présence d'une nouvelle, de la découverte d'un nouveau principe. Et ce principe que je découvre en éthique n'est pas la nature. Vous voyez, quand les gens autour de nous, les gens politiques, qu'il ne faut pas beaucoup de philosophie, pour eux, la morale, c'est la loi. C'est pas un principe, c'est la loi. Vous voyez, depuis Kant, on est tous un peu conscients. On est tous un peu Descartes. Descartes n'a pas découvert la finalité. Cherchez bien, vous ne trouverez pas. Et c'est pour ça que que les Français ont tant de peine à découvrir la finalité. Pour eux, la morale, c'est la loi. Mais la loi, qu'est-ce que c'est que la loi ? La loi n'est pas un principe. La loi, c'est une relation. Pour vivre en commun, il faut observer certaines lois. Et la plupart des Français, la finalité, c'est observer la loi. Je suis un bon chrétien, puisque je vais à la messe ce dimanche. La définition du chrétien, par la loi. La messe tous les dimanches. Je suis un bon chrétien, mais non, le bon chrétien, c'est celui qui a choisi le Christ comme finalité. Et si je ne choisis pas le Christ comme finalité, je ne suis pas chrétien. Je reste au niveau de la loi. C'est très compréhensible, ça. Votre vocation, elle ne peut pas s'expliquer par la loi. Si votre vocation s'explique par la loi, ça prouve qu'elle n'est pas juste. Vous entrez en vie religieuse parce que vous aimez Jésus et vous voulez l'aimer plus et toujours plus. Et vous prenez la voie qui est la plus directe. Donc, c'est la découverte de la finalité, l'éthique. L'éthique commence par la découverte de la finalité, le bonheur. Je cherche le bonheur dans ma vie, ce qui peut être pour moi le bonheur. Alors, je le découvre progressivement. Le bonheur n'est pas d'être vertueux. Il faut être vertueux pour découvrir la finalité. Mais le bonheur est plus que la vertu. C'est l'amitié. Mon premier bonheur, c'est l'amitié. Parce que je découvre ma fin, au-delà de la nature, ma fin personnelle. Et découvrant ma fin personnelle, la première découverte de la fin personnelle, c'est l'ami. Non pas la nature, l'ami. L'ami, j'ai une expérience propre à l'ami. C'est pas n'importe qui, l'ami. L'ami, c'est celui qui m'aime et que j'aime. C'est dans un amour réciproque que je découvre qu'il y a quelque chose de nouveau dans la découverte d'un ami. Je découvre la finalité en elle-même, pas à travers la cause formelle, mais en elle-même, mon bonheur ne s'explique pas par la cause formelle. La preuve, c'est que le bonheur est très différent selon les personnes. Ils ont tous la même nature. Donc ils devraient tous avoir le même bonheur. Non, pas du tout. Le bonheur est très différent. Les gens pas très éduqués, leur bonheur c'est quoi ? C'est d'avoir leur petit jardin qu'ils cultivent, en plus du travail qu'on fait pour avoir des sous. On a son petit lopin de terre. C'est des sols, le bonheur pour des quantités de personnes. D'avoir leur maison, de ne pas être simplement des gens qui passent d'une maison à l'autre maison, mais qui ont leur maison. C'est le bonheur des quantités de gens, ça. Mais il y a déjà une découverte d'une finalité. Elle n'est pas très élevée, mais elle est à une dimension, on dira, naturelle. Leur bonheur ne dépasse pas beaucoup la nature. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. Et ces gens-là se marient, s'aiment. Leur amour d'amitié est au fond très limité. Ils sont heureux de se trouver ensemble. Et ça va, ils se trouvent ensemble. Mais il y a un bonheur. Il y a quelque chose de plus que la loi. Il y a un bonheur. On a découvert une personne. On a aimé une personne. Alors, c'est au fond quelque chose de très grand. La découverte de la finalité pour elle-même, au-delà de la nature. Pour elle-même. Je ne me pose pas la question tout de suite quand j'aime quelqu'un. Alors, est-ce que c'est naturel de l'aimer? Non. Vous poserez la question, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que mon amour n'est pas un amour égoïste pour moi, mais est-ce que je l'aime vraiment? L'amour se justifie par l'amour et non pas par la nature. Les gens qui justifient leur amour par la nature se trompent parce qu'il y a la découverte d'un principe. Alors, c'est sûr que ce principe est très subjectif. L'amour d'amitié, hein, c'est ma personne. C'est très subjectif. Et par le fait même, c'est quasi impossible de juger de l'amitié de l'extérieur. Quand on juge l'amitié de l'extérieur, on ramène l'amitié à la nature. Alors justement, l'amitié est le dépassement de la nature. Il y a là quand même quelque chose de très très important à découvrir. Beaucoup de personnes, la plupart des personnes, surtout dans un monde scientifique, la plupart des personnes ne découvrent pas la causalité finale. Ils restent dans leur nature. Ils restent dans ce qui est conforme à la nature humaine, c'est-à-dire animal raisonnable. Animal raisonnable mesure toutes les activités. Alors, quand vous trouvez un ami, vous dites, j'ai trouvé un animal raisonnable. Vous voyez que ce serait complètement absurde de dire ça à votre ami. Votre ami vous regarde, mais j'en ai là. Je suis pour toi un animal raisonnable. Quand vous découvrez l'amitié de quelqu'un, mais vous ne regardez pas animal raisonnable. Animal raisonnable, c'est logique. L'amitié est au-dessus de la logique. La logique ne peut rien dire sur l'amitié. Rien du tout. Et depuis Descartes, la logique passe avant tout. Et donc supprime l'amour d'amitié. Il faut être très net là-dessus, au point de vue philosophique. Hein. Alors, l'éthique d'Aristote a ceci de merveilleux, c'est que l'éthique d'Aristote commence par le bonheur. Eh bien, le bonheur, c'est ma finalité. Je cherche à être heureux. Et je sais progressivement où se trouve mon bonheur. Mais je cherche à être heureux. Et j'ai là une expérience qui dépasse le point de vue de la cause formelle. Elle peut être très faible au début. Mon bonheur, il n'est pas très bien défini. Et le bonheur ne se définit jamais. Si vous saisissez ce que c'est que le bonheur, vous riez quand on vous dit « Quel est votre bonheur ?» Je ne peux pas le définir. Le bonheur ne se définit pas, puisqu'il relève de la cause finale, propre, qui est au-delà de ce qui se définit. Qu'est-ce que vous définissez ? Toujours la cause formelle. La nature, animal raisonnable. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que votre bonheur est-il conforme à animal raisonnable ? Jamais. Et celui qui vous dirait « Ah, oh, j'ai peur, mon bonheur, oh, je n'arrive pas à le ramener à animal raisonnable. » Je répondrai « Tant mieux, vous commencez à découvrir votre finalité. » La découverte de la finalité est quelque chose de capital. C'est mon bonheur. Et votre bonheur, il est au-delà de la logique. Il ne peut pas se définir par la logique. Votre bonheur, il est personnel. Ah, tiens. Mon bonheur, il est personnel. Mon bonheur, il ne relève pas de ma nature. Non. Ma nature ne me fait pas découvrir la finalité. Et donc, mon bonheur n'est pas naturel. Mon bonheur, il est personnel. C'est la personne qui commence à joindre. Et ça, c'est tout le temps. On reconnaît ça dans la réalité, le passage de la nature à la personne. La découverte de la finalité est personnelle. Et non pas naturelle. Naturelle, oui, très bien. Vous découvrez la finalité au point de vue naturel, mais vous ne la découvrez pas comme un principe. Vous la découvrez comme une conclusion de la cause formelle. J'insiste parce que je crois ça capital et que, hélas, des quantités de philosophes ne dépassent pas ce qui peut être défini et veulent partout la définition. La définition se fait par genre et différence spécifique. Donc, il ne dépasse jamais le point de vue univoque et demeure dans l'univocité, le genre et la différence spécifique. Le bonheur n'est pas dans le genre et la différence spécifique. Il y a une expérience propre du bonheur. Vous l'avez faite assez vite, cette expérience. Quand on a 14 ans, on commence à faire cette expérience du bonheur. Les premières petites amitiés, tout de suite, c'est la découverte de quelque chose de très grand. Et on ne fait pas assez attention à ça. Alors qu'au fond, on devrait être très attentif au point de vue éducation à ça. Parce que c'est le premier moment du dépassement de la forme. Et le premier moment du dépassement de l'universel, la forme est universelle. Le premier dépassement, c'est le bonheur, ma finalité. Alors, il y a des degrés différents. Le bonheur me finalise. Et en réfléchissant, je vois que aucune réalité physique, aucune réalité animale ne peut me procurer le bonheur. Le bonheur n'est pas dans la nature. Le bonheur est au-delà de la nature, la découverte de la personne. C'est très important, ça. Parce que on dira, les gens qui ne connaissent pas, dira, ah, vous êtes aristotélicien, ah, vous êtes dans la nature, alors. Pour tout ce qui est naturel, je suis dans la nature. Pour voir une vache, je regarde comme une nature particulière, c'est un vivant. Je regarde un arbre, c'est une nature particulière, je respecte la nature, mais je la dépasse. Parce que l'homme ne peut pas être réduit à la nature. Un homme qui est vraiment un homme a découvert sa finalité. Tant qu'il ne l'a pas découvert, il n'est pas un homme. Et c'est vrai, il se conduit comme tout simplement une espèce particulière, un animal très spécial. Je sais très bien qu'au point de vue scientifique, on veut ramener l'homme au premier animal. Le corps de l'homme vivant est quand même de chair un peu plus élevée que la chair des animaux. Quand vous mangez du sanglier, vous dites ce n'est pas de la chair humaine, c'est du sanglier. C'est vrai, la cause formelle est différente, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quelque chose de propre à la saisie de l'homme. Au fond, l'homme échappe à la définition. Si on respectait cela, ce serait énorme. On veut toujours ramener les gens à la définition, donc au genre et différences spécifiques. Et quelquefois, on pousse cela jusque en théologie. Or, Dieu n'est pas dans un genre. L'être n'est pas dans un genre. Le bien n'est pas dans un genre. Les transcendentaux ne sont pas dans un genre. Et l'homme n'est pas dans un genre. Si vous ramenez l'homme à la définition de l'homme animal raisonnable, vous ne saisissez pas l'homme. L'homme est une personne. Vous voyez, ce sera le gros problème politique, ça. Le gros problème politique, c'est de respecter la différence entre nature et personne. Et tout système tyrannique ramène la personne au genre. Et ramener la personne au genre, ce n'est plus saisir la personne humaine. Oui, j'insiste beaucoup parce que c'est là le moment précis où on se met dans une voie capable de découvrir Dieu, où on reste dans une voie incapable de découvrir Dieu. L'être n'est pas dans un genre. Dieu n'est pas dans un genre. Et donc, toute connaissance générique ne peut pas atteindre Dieu. Il faut en être convaincu, ça. Et convaincu parce qu'on en a fait l'expérience. Il y a une découverte nouvelle qui est personnelle. Alors, parce qu'elle est personnelle, elle n'est pas générique. Elle est personnelle. Alors, le très grand danger, c'est de tomber dans la subjectivité absolue. Alors, comment éviter la subjectivité alors qu'il faut la dépasser ? Il faut dépasser la nature, dépasser la subjectivité. Les deux grandes erreurs qui m'empêchent de découvrir l'acte comme principe, c'est de demeurer dans le genre et de considérer que ma métaphysique ramène tout à la définition genre différent spécifique. La rhétorique revient toujours au genre éléphant spécifique. Toujours. Mais c'est la rhétorique, c'est la logique. La rhétorique est une espèce de logique affective. Puisque vous essayez de toucher le cœur des gens par la rhétorique. Et vous prenez la causalité finale en tant qu'elle est symbolique. Parce que vous la saisissez comme une conclusion. Alors ça, c'est le grand rhéteur. Il manie merveilleusement la finalité. Le petit rhéteur demeure dans la cause formelle. Le grand rhéteur sait toucher le dépassement par le point de vue final métaphorique. Mais il ne découvre pas la vraie finalité. C'est important, vous voyez, Cicéron ne découvre pas la vraie finalité. Lisez le traité de l'amitié chez Cicéron, vous verrez. C'est intéressant, traité de l'amitié chez Cicéron, le traité de l'amitié chez Aristote, comparé. Cherchez l'amitié chez Descartes. Alors, c'est important. Est-ce qu'il a touché l'amitié ? Est-ce qu'il pouvait toucher l'amitié ? Puisque il ramène tout au genre et différents spécifiques. Il ne sait pas ce que c'est que l'analogie. Alors l'amour, c'est uniquement la passion. L'amour, c'est uniquement la passion. Il n'y a plus d'amour spirituel dans l'amitié. La découverte de l'amour spirituel de l'amitié, c'est une découverte de la finalité. Et alors, il y a un moment très important pour nous, au point de vue philosophique, c'est de voir qu'il faut dépasser la nature pour découvrir la finalité. C'est-à-dire la personne. Un petit gâteau, un bon beefsteak n'est pas ma fin. Je l'aime, mais ce n'est pas ma fin. Je l'aime raisonnablement. Le beefsteak, le vin, je l'aime raisonnablement. Et ça peut me conduire à la passion. La personne a quelque chose de nouveau. Je l'aime directement. Tant que vous aimez quelqu'un, parce qu'il a de beaux yeux, parce qu'il a une figure agréable, un sourire délicieux. Donc vous aimez quelqu'un parce qu'il parle très bien. C'est un rhéteur de premier ordre. Il séduit. La séduction ne fait pas découvrir la finalité. Ils font découvrir le rival de la finalité. Et la plupart des hommes demeurent dans la séduction. Ils sont séduits. Ah, cet homme a été extraordinaire. Dès qu'il parle, on l'aime, on le suit. Et est-ce que vous l'aimez comme homme, comme personne? Ah non, j'aime parce que c'est un rhéteur de premier ordre, il me séduit. Il suffit qu'il ouvre la bouche pour que je sois séduit. Comme le petit oiseau en face du serpent. Il faut voir ça. Dans sa vie, il faut voir comment le serpent séduit un oiseau. C'est très émouvant, du reste, voir ça. Très émouvant, parce qu'on se met du côté de l'oiseau. Si on se met du côté du séducteur, c'est pas séduisant du tout, c'est terrible. C'est terrible un séducteur, parce qu'il nous fait manquer la finalité. Et dans la vie, alors, on ne vit plus de la finalité, on vit uniquement de la cause formelle. On est séduit par la cause formelle, hein. On n'est pas séduit par la finalité. On est séduit, parce que la cause formelle nous semble première. On ne peut pas aller au-dessus. Mais c'est la séduction de la logique. Et la séduction de la logique, elle existe très fort dans le monde d'aujourd'hui. Parce que quand vous mettez la science au-dessus de tout, au fond, en réalité, ce n'est pas la science, c'est la logique que vous mettez au-dessus de tout. Et vous êtes séduit par la logique. C'est la séduction, ça, de la cause formelle. La séduction de la définition. On connaît parfaitement la métaphysique de saint Thomas, la métaphysique d'Aristote, parce que on connaît toutes les définitions. On définit l'acte, on définit la substance, on définit... Ah, je connais, ah, je sais connu. Alors, il faut le prendre au tournant. Vous êtes séduit par ça. Alors, dès que vous dépasser la séduction et que vous regardez la finalité, alors on ramène la finalité à la cause formelle. Et c'est dire, la finalité est toujours métaphorique. Elle est métaphorique. Elle se ramène à la forme. Il y a donc là un enjeu extrêmement important pour nous, parce que c'est notre bonheur, hein. La séduction ne nous donne jamais le bonheur. La séduction cultive la jalousie. Elle cultive la jalousie, parce qu'on veut être premier dans la séduction. Celui qui nous séduit, on veut être tout près de lui. L'oiseau, quand il est séduit par le serpent, s'approche. Petit à petit, il s'approche. Et le serpent continue de le séduire. Jusqu'au moment où il s'approche tellement, le serpent le pique. Et quand il est piqué, le serpent peut s'en servir. Quand il est piqué, il ne voit plus qu'il est séduit. Parce que il est mort. Il est mort quant à son intelligence. Et tout ce que l'autre dit, le séducteur, c'est la vérité. Donc il n'y a plus la référence au réel, il y a la référence au séducteur. C'est très très important ça, de découvrir pour nous la différence entre la causalité exemplaire qui séduit. Il faut être un peu séduit par la cause formelle pour éviter toute grande séduction. Parce que la grande séduction, c'est l'ennemi numéro un de l'amour. Vous n'aimez pas quand vous êtes séduit. C'est la causalité formelle qui l'emporte, c'est l'intelligence qui l'emporte. Et vous n'aimez plus. L'amour nous donne la liberté. La séduction supprime la liberté. On est séduit. Alors, parce qu'on est séduit, on s'approche toujours près. Et le serpent, parce que c'est toujours le serpent qui est derrière, il vous pique. Et vous mourrez. Vous devenez l'esclave. C'est très curieux. Alors que la cause finale commence à vous libérer. C'est l'amour qui me rend libre. Et plus l'amour est élevé, plus ma liberté est grande. Quand l'amour demeure assez bas, la liberté est très petite. Mais quand l'amour est beaucoup plus élevé, devient personnel, alors vous commencez à avoir la liberté. La liberté n'est pas première, elle provient toujours de l'amour. C'est l'amour qui vous libère. Et plus cet amour est élevé, plus la liberté est grande. Vous voyez ? Le dépassement de la séduction, de la cause formelle, commence à me rendre libre. Je ne suis libre que grâce à la finalité. C'est la finalité qui me donne la liberté, qui me rend libre. C'est quelque chose d'extrêmement profond, ça. Vous voyez, Descartes met la liberté au-delà de l'amour. Quand quelqu'un dit « moi, je veux être libre », et puis il n'aime pas. Alors, c'est une petite liberté momentanée, mais ce n'est pas la vraie liberté. Donc, le dépassement de la causalité formelle, très souvent, se fait par la séduction. Mais la séduction ne me libère pas de la cause formelle. Le dépassement de la cause formelle se fait par l'attraction du bien. Et le bien spirituel, c'est la personne. La personne est le premier bien spirituel. C'est le bien spirituel. Et le dernier bien spirituel, c'est la personne. Je suis attiré, mais pas séduit. Attiré par la personne. Je l'aime. À ce moment-là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans mon intelligence. Je découvre un dépassement de l'universel, un dépassement du genre et de la différence spécifique. Je découvre le bien. l'être est bon. Et le bien que je découvre, c'est la personne. Parce que la personne, c'est le premier bien spirituel que vous saisissez. Tous les autres biens ne vous font pas découvrir la finalité. Ils sont contemporains de la séduction, ils sont... Vous voyez, on voit très bien au moment des fêtes tous les magasins à Paris sont faits pour la séduction. C'est vrai. Toute l'intelligence des hommes aujourd'hui, c'est pour la séduction. C'est une façon extraordinaire de voir ça. Et ça gagne même le point de vue politique aujourd'hui. C'est qu'au fond, la séduction arrête, empêche d'atteindre la finalité. Il faut dépasser la séduction pour découvrir la personne. En découvrant la personne, je découvre que l'amour que j'ai pour cette personne me permet de l'aimer. Si cette personne elle-même m'aime, c'est très étonnant de voir que la finalité ne se découvre que dans la dualité. Il faut que le bien que j'aime m'aime, c'est-à-dire soit personnel. Une personne aime une personne. Et une personne aime une personne qui m'aime. Et je découvre alors à ce moment-là ma finalité. Il faut être deux plongés dans l'amour pour découvrir la finalité. Tant que je n'ai pas découvert celui qui m'aimait, je suis dans le désir. J'ai soif, je suis dans le désir. Mais je n'ai pas découvert vraiment la finalité. La découverte de la finalité me repose. Parce que l'amour que j'ai pour l'autre rejoint son amour. Et seule l'expérience de l'amour m'apaise, me fait toucher ma faim.